Radio Okapi.
Maisha bora.
Bienvenue dans Maisha bora, votre magazine de promotion des questions de santé et bien-être sur Radio Okapi. Nous parlons aujourd'hui d'une maladie tropicale négligée, peu connue du grand public, la dranquinculose, appelée aussi le ver de Guinée. Quels sont les facteurs de risque et comment peut-on prévenir et soigner ces parasites? Je suis Tati Mapoukou, Jean-Marc Matouaki coordonne et supervise ce numéro, Mimi Kindo assure la prise de son. Toute l'équipe de Maisha bora vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ce numéro.
La santé et le bien-être dans Maisha bora. Maisha bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maisha bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tout le lundi à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Merci de rester à l'écoute de Radio Okapi, la fréquence de la paix. Pour rappel, la dranquinculose, appelée autrement le ver de Guinée, fait partie des maladies tropicales négligées. De nos jours, la RDC figure parmi les 7 pays au monde dont l'éradication de ces parasites n'est pas encore certifiée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. Quels sont les facteurs à la base de l'éclosion du ver de Guinée? Quels sont les moyens efficaces de prévention et de traitement de la dranquinculose? Quelle est la méthode utilisée par les programmes nationaux d'éradication de la dranquinculose pour détecter des cas suspects en RDC? Des réponses à ces questions, vous les aurez sans doute au cours de ce numéro de Maisha bora qui démarre avec le témoignage d'une dame à qui nous avons tendu le micro dans un quartier urbano-rural de Kinshasa. Cette femme, la cinquantaine révolue, ne connaît pas les vers de Guinée. Elle sait plutôt les vers, des terres qu'elle voit couramment sur le sol après la pluie. Nous allons ensemble écouter son témoignage.
C'est ma toute première fois de voir ces parasites. Je connais plutôt le vers de terre que je vois souvent par terre en période de pluie. Mais ces parasites qui s'introduisent dans le corps humain, je les vois pour la toute première fois aujourd'hui.
Merci à cette dame qui a réagi au micro de Maisha bora. C'est quoi la dranquinculose, appelée aussi le ver de Guinée? La dranquinculose, communément connue sous le nom de la maladie du ver de Guinée, est une affection parasitaire invalidante. Elle fait partie des maladies tropicales négligées selon Capo Germain, chef des divisions techniques au programme national d'éradication de la dranquinculose, PNED en sigle.
Le ver de Guinée, c'est une maladie parasitaire, une maladie dite négligée. Elle est causée par un microbe, un parasite qu'on appelle Dracunculus medinensis. Alors, comment ça se transmet? C'est une maladie qui se transmet en buvant de l'eau contaminée. De l'eau contaminée par des chrysops, donc des petites bestioles qui vivent dans l'eau, qui sont contaminées par les larves du microbe, et quand vous les buvez, vous êtes contaminé.
Le ver de Guinée est rarement mortel, mais les sujets atteints par la maladie peuvent être handicapés pendant des mois. Elle affecte généralement la population vivant en milieu rural qui utilise l'eau des sources non aménagées comme boisson, selon Dr Capo Germain, chef des divisions techniques au PNED.
Le milieu de prédilection, ce sont des mares, des eaux un peu stagnantes qui favorisent le développement des chrysops. Alors, c'est tout un cycle, au fait. Quand vous ingurgitez cette eau-là avec des larves, ça se développe au niveau intestinal, ça passe dans la circulation sanguine et puis ça s'installe dans les milieux lymphatiques et plus dans les parties déclives, vers des jambes. C'est là où les larves vont se développer pour devenir des vers adultes et la femelle et les mâles, ils vont s'accoupler et finalement, au finish, ils vont créer une zone de faiblesse au niveau de votre membre, un petit furoncle qui pourra se rompre et à partir de l'endroit rompu, la femelle va pondre des œufs et l'eau va être contaminée. Au fait, quand la femelle est à ce niveau-là, ça vous provoque des chaleurs au niveau des jambes qui vont vous pousser à aller plonger votre jambe dans l'eau. Et quand
des chaleurs sous forme de chatouillement.
Exactement. Alors quand cette eau-là, ce sont des mares, et si jamais ça rencontrait ces chrysops, et du coup, ça va libérer les larves qui vont migrer vers les chrysops et se développer pour devenir infestants.
La drachenculose est sur le point d'être éradiquée avec seulement 30% des cas notifiés en 2017 selon l'OMS. Il faut noter que la RDC est un pays endémique du ver de Guinée. À l'époque coloniale, des cas ont été documentés. Elle est une maladie en voie d'éradication à travers le monde, soutient Dr Samba Kanda Gédéon, directeur du programme national d'éradication de la drachenculose. Il nous parle également des circonstances qui ont concouru à la redynamisation de ces programmes au niveau du ministère de la Santé publique.
La RDC est un pays historiquement endémique du ver de Guinée. C'est-à-dire, dans les anciens temps, cette maladie sévissait depuis l'époque coloniale avec environ 518 cas depuis l'époque coloniale. Mais depuis un certain temps, on ne trouvait plus de cas au Congo. C'est une maladie à éradiquer. Depuis sa création jusqu'à ce jour, l'OMS a réussi l'éradication d'une seule maladie, la variole. Elle s'est vue réussir l'éradication mondiale de la maladie communément appelée ver de Guinée. C'est dans ce cadre de la campagne mondiale d'éradication du ver de Guinée que ce programme a été créé en RDC en 2002. À ce jour, il ne reste que 7 pays du monde qui ne sont pas déclarés certifiés éradiqués de cette maladie, le ver de Guinée.
Notamment la RDC aussi figure parmi les 7 pays.
Oui, la RDC tire encore vers le bas ce processus. Donc nous figurons parmi les 7 pays restants. Voilà pourquoi ce programme a été créé, avec comme mission principale de vérifier l'absence de ver de Guinée dans l'ensemble du territoire national.
Et sur terrain, comment est-ce que vous travaillez? Quelle approche vous adoptez pour vérifier, détecter s'il y a des cas suspects ou des cas concrets à travers les pays?
Depuis les années 2013-14, il y a eu redynamisation de ce programme. Nous avons sillonné dans 24 provinces sur le 26 pour passer dans les enquêtes de vérification des cas selon la recommandation de l'OMS. Donc, de l'ensemble des provinces enquêtées, nous avons trouvé 6 cas suspects, 6 vers suspects qui ont été prélevés chez des patients au Sankuru, à Norubangui, dans l'ex-Katanga. Le seul laboratoire au monde qui confirme le ver de Guinée, c'est CDC A30. Des échantillons, les 6 échantillons ont été envoyés vers le CDC A30 et se sont révélés négatifs. Donc, c'était d'autres espèces de filariose ou de ver. Ce n'était pas le ver de Guinée. C'est ça les résultats des enquêtes de vérification de ces dernières années.
Depuis 2012, aucun cas n'a été détecté au pays, mais on a découvert des patients affectés par les vers de Guinée dans certains pays limitrophes à la RDC. On a également découvert ces parasites chez certains animaux d'élevage au Tchad. Avec la migration des éleveurs de gros bétail dans la partie orientale de la RDC, il n'est pas exclu que l'on puisse enregistrer des cas positifs sur le territoire national, ajoute Dr Samba Kanda Gédéon. Nous rappelons qu'il est le directeur du PNED.
Effectivement, ce n'est pas une hypothèse à exclure parce que l'Angola était en même position avec nous. Mais à force de renforcer leur surveillance, aujourd'hui l'Angola a détecté des cas humains. Et l'Angola a basculé dans l'endémie, est devenu encore pays endémique. Nous sommes en phase de pré-certification. Mais ce qui est vrai...
Puis, l'Angola, c'est un pays voisin, il y a des commerçants, des navettes dans les deux sens.
Oui, c'est pour cela même, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il y a des inquiétudes dans ce sens que l'Angola est un pays voisin. Le Soudan du Sud, qui était autrefois très endémique, est un autre voisin. Nous connaissons bien le mouvement frontalier et migratoire entre les deux pays. Il y a aussi un phénomène nouveau. Le ver commence à apparaître chez des animaux, entre autres les chiens et les chats. Et c'est le Tchad qui bat record, parce que les années 2018, le Tchad avait rapporté plus de 1000 cas chez les chiens. Et les Tchadiens élevés pénètrent chez nous via...
dans la partie orientale.
Dans la partie orientale, à Haute-Ouélé et Bas-Ouélé, l'Embororo, à la recherche de l'eau. Ils peuvent aussi nous importer des cas.
Merci beaucoup, docteur, pour ces renseignements. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les difficultés liées aux activités que vous menez sur terrain?
Oui, effectivement, nous avons des difficultés parce que, de un, nous faisons partie des groupes de maladies appelées maladies tropicales négligées. Donc, il y a des difficultés de fonctionnement, il y a des difficultés d'insuffisance des fonds alloués aux activités. Plus précisément, les activités de communication. Nous devons mener des campagnes de vulgarisation, de sensibilisation, d'information de la maladie auprès de la population dans toutes les provinces afin d'y parvenir à la certification et que les populations se mettent à chercher des cas parce que la surveillance est à base communautaire. La stratégie mondiale, c'est la surveillance à base communautaire. Mais il faut que ces communautés connaissent d'abord cette maladie et les systèmes de récompense monétaire. Ça va booster la surveillance et nous allons vite parvenir à l'éradication.
Les cycles du développement du ver de Guinée dans l'organisme d'urinané, les démangeaisons et une sensation de chaleur sur la partie affectée par ces parasites sont aussi des signes caractéristiques de la contamination au ver de Guinée, selon Dr Bill Kabongo, chef des services de communication du programme national d'éradication de la drachenculose.
C'est une maladie qui pourrait d'abord faire une année pour manifester ceci. Alors, c'est une maladie qui doit d'abord durer dans l'organisme. Là, c'est d'ailleurs lorsque nous allons parler du cycle même de cette maladie. Alors, on vous dira que la période d'incubation va d'une année et c'est alors que le patient pourra manifester les différents signes. Là, je vais un tout petit peu enrichir avec ce qu'a dit mon aîné scientifique sur ce qui concerne le signe clinique de cette maladie. Alors, premièrement, vous verrez que le malade va se présenter avec ce que nous appelons communément ici une ampoule. Donc, en termes médicaux, ce sont des phlyctènes. Alors, cette phlyctène va se manifester au niveau des zones d'éclipse, plus précisément au niveau de la malléole, soit la malléole externe ou interne.
Une ampoule, ça fait un développement normal. On dit généralement bibon, c'est ça, ça peut apparaître comme ça.
Voilà, généralement comme ça, sous forme de bibon au niveau de la malléole externe, un tout petit peu là. Alors, vous verrez que votre patient aura tendance à se plaindre de démangeaisons et de brûlures là que nous ressentons. Bon, toutefois, il vous dira, mais après ces démangeaisons, à chaque fois que je me chatouille, je sens comme si je suis brûlé un tout petit peu comme ça. Ce sont là les signes qui accompagnent plutôt la maladie. À part ces gonflements, il y a aussi la douleur qui se présente au site même de la phlyctène ou soit de l'ampoule déjà formée. Alors, vous allez voir qu'après cette formation de la phlyctène et même de tous ces signes que nous avons cités, il y aura la plaie qui va se former. Là, c'est la plaie qui pourra se former après, bien sûr, la sortie du ver de Guinée dans le corps humain. Alors, ce ver a aussi ses sites préférentiels. Il ne se présente même pas par-ci et là du corps humain. Mais c'est un ver qui, en fait, choisit ses sites préférentiels tels que les organes génitaux, par exemple. Ce ver peut se localiser là-bas. Il peut se localiser au niveau du sang. Il peut se localiser au niveau de la poitrine et soit au niveau du pied, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, au niveau de la malléole. Et surtout pour ce qui concerne même les gens qui présentent ce phlyctène au niveau de malléole externe. Là.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous écoutez la fréquence de la paix qui vous propose Maïcha Bora, votre magazine de promotion des questions de santé et bien-être qui s'intéresse aujourd'hui à la drachénculose ou les vers de Guinée. Quels sont les facteurs de risque et comment peut-on prévenir et soigner ces parasites? Les personnes vivant en milieu rural constituent des sujets à risque, ajoute Dr Capot-Germain. Nous rappelons qu'il est le chef des divisions techniques au PNED. Un service de surveillance épidémiologique et de sensibilisation est mis en place depuis 2015 au sein du Programme national d'éradication de la drachénculose avec comme objectif principal de documenter des cas suspects par le biais d'une prime allouée par l'OMS en faveur de la personne qui va détecter les cas suspects. La victime affectée par les parasites et les personnels soignants auront également une prime de motivation dont les montants s'élèvent à $100 américains. Suivant les explications du docteur Sam Vakanda Gedeyon, nous rappelons qu'il est le directeur du programme national d'éradication de la drachénculose.
Oui, par rapport à l'approche, nous avions commencé à renforcer la surveillance avec les enquêtes de vérification et la surveillance de routine. Depuis 2015, la RDC a inséré la maladie des vers de Guinée dans la liste des maladies sous surveillance hebdomadaire. Depuis 2015, le ministère de la Santé rapporte de 0 cas de drachénculose ou vers de Guinée dans sa base de données ou la surveillance de routine. C'est un atout majeur par rapport à la surveillance. Par rapport à la communication, parce qu'on ne sait pas aussi déclarer certifié éradiqué d'une maladie que la population ignore. Nous sommes en train de sensibiliser nos populations et nous avons fait des campagnes de sensibilisation, de vulgarisation ici à Kinshasa dans 10 zones de santé urbano-rurale. Mais nous continuons aussi à le faire à chaque fois que nous descendons en province. On profite derrière d'autres activités pour sensibiliser un peu. Mais cette sensibilisation est encore faible. Parce que nous avons un système de récompense monétaire qu'il faut vulgariser. C'est-à-dire faire parvenir l'information à la population qu'il existe d'abord la maladie des vers de Guinée, qui a sévi dans le pays depuis les époques coloniales, et nous continuons à chercher des cas jusqu'à éradiquer cette maladie. Et qu'ils aient l'information, que la population ait l'information, qu'il existe un système de récompense monétaire, c'est-à-dire celui qui trouve un cas de vers de Guinée et que c'est confirmé, a droit à $100. L'informateur, le malade, chez qui on va prélever le vers aussi $100, la zone de santé et les personnels soignants. Donc, un montant de $400. D'ailleurs, un atelier dernier ici, dans la province du Congo central, le montant de récompense est passé de 100 à 250 dollars. Donc, aujourd'hui, l'argent est disponible à l'OMS. Celui qui trouve un cas, c'est confirmé vers de Guinée, il bénéficie de $250 américains.
Le traitement de la drachénculose consiste à l'extraction de ces parasites dans le corps humain. La thérapie ressemble à une petite chirurgie qui peut être faite par un médecin ou par un infirmier formé pour le traitement du vers de Guinée, précise Dr Capot-Germain. Nous rappelons qu'il est le chef des divisions techniques au PNED.
Le grand traitement, c'est l'extraction du vers. L'extraction, il est vraiment minutieux, il peut prendre même 24 heures. Donc il y a des techniques appropriées avec des tiges d'almettes. On enroule les vers petit à petit parce qu'il est long. On a dit qu'il pouvait mesurer 1 mètre. On enroule. Quand c'est dur, on peut même arrêter. On scotche avec du sparadrap. On reprend après l'enroulement. Il ne faudra pas que les vers se cassent. Sinon, il y aura réinfection. Donc c'est ça. Ensuite, on doit traiter cette plaie avec des antibiotiques pour éviter évidemment une réinfection.
La cicatrisation.
Voilà. Donc on doit traiter la plaie comme toute autre plaie, quoi.
Donc la thérapie ressemble à la chirurgie. Là, c'est vraiment une chirurgie que vous faites. Là, l'extraction, c'est un travail laborieux, docteur.
Oui, bon, c'est la chirurgie, mais c'est de la petite chirurgie. Donc, ou même au niveau des centres de santé, un infirmier est capable, un infirmier formé est capable de les faire.
Ouais.
Une fois extrait de l'organisme, il faut conserver ces parasites selon les normes requises car il sera acheminé au laboratoire de CDC à Atlanta, aux USA, pour des analyses appropriées, en croire Dr Bill Kabongo, chargé des communications du PNED.
Le seul laboratoire qui peut nous confirmer qu'il s'agit bel et bien de ce ver de Guinée, c'est le laboratoire CDC à Atlanta. Alors vous imaginez déjà que ce ver, une fois que vous l'aurez extrait, il est recommandé de pouvoir bien protéger ce verre de Guinée dans le flacon d'alcool dénaturé à 70%. C'est l'unique moyen que vous pouvez conserver ce verre de Guinée. Pourquoi est-ce que nous recommandons que ça soit conservé dans l'alcool dénaturé? Vous verrez bien que nous avons besoin de la constitution génétique de ce verre de Guinée en vue d'un bon examen au niveau du laboratoire. Mais vous imaginez, certains personnels soignants risqueraient de prendre ce verre et aller mettre dans du formol. Là, il détruit carrément la constitution génétique de ce ver de Guinée. Alors pour tout personnel soignant, lorsque vous aurez extrait ce ver de Guinée, placez ce ver dans l'alcool dénaturé 70% pour la bonne conservation de ce ver de Guinée. Alors le plus grand système que l'OMS a mis en jeu pour tous nos patients, c'est le système de récompense monétaire de cas. On vous a dit qu'on a mis en jeu $400 américains. D'abord, $100, ça sera pour le malade lui-même. Le $100 autre, ça sera pour le déclarant, la personne qui aura signaler le cas. Les autres $100, ça sera pour le personnel soignant ou celui qui aura traité ce cas de ver de Guinée. Et autres $100 pour le médecin chef des zones de là où le cas sera détecté.
Il n'existe ni vaccin ni traitement médicamenteux contre la drachénculose, mais la maladie est tout de même sur le point d'être éradiquée grâce à des stratégies de prévention. Il s'agit notamment du renforcement de la surveillance épidémiologique et du traitement adéquat des patients. Il faut également augmenter les taux de desserte en eau potable dans les milieux reculés de la RDC car c'est de l'eau souillée, des sources non aménagées qui est la cause principale de la contamination.
Tout ce que nous recommandons à des patients qui ont de verre émergent, c'est de ne pas d'abord continuer à pénétrer les eaux que nous appelons le mar. Parce que là, il y a facilité à pouvoir entraîner ce verre à... Parce que c'est un verre d'abord qui suit de l'eau. C'est un verre, vous voyez déjà, on vous dit que c'est une maladie hydrique. Ce verre a tendance toujours à suivre de l'eau. Imaginez-vous quand le patient a ce verre déjà migrant au niveau du membre inférieur, il aura tendance à plonger son pied dans l'eau. C'est juste pour adoucir le pied, ce qu'il y aura. Donc, parce que déjà, il y a des sensations de brûlure là-dedans. La personne aura toujours tendance à plonger pour apaiser maintenant la douleur et même la brûlure. Vous voyez déjà que du moment où le malade va plonger le pied dans l'eau, le ver va encore retourner dans l'eau, y mettre d'autres larves cyclopes et les cycles continuent ainsi de suite. Donc nous interdisons à toute personne qui présente déjà ces vers migrants de ne pas pénétrer dans le mar. Alors deuxièmement, il faut filtrer de l'eau de surface, donc les eaux de boisson. Vous utilisez soit les tissus propres pour pouvoir filtrer de l'eau, soit vous utilisez des machines à filtre pour pouvoir filtrer de l'eau avant la consommation.
Donc de l'eau potable avant la consommation.
Bien sûr, de l'eau potable avant la consommation. C'est qu'on dit même, il faut boire de l'eau des forages ou soit des puits qui sont bien protégés. Et surtout dans des milieux ruraux où les gens utilisent des puits et des eaux de puits, il faut que ces puits là ou ces eaux de surface soient bien protégées pour ne pas permettre la réintroduction des eaux qui contiennent un peu des cyclopes, ces parcelles là. Et puis troisièmement, nous recommandons toujours à la population d'informer et de sensibiliser l'entourage en vue d'un comportement conséquent. C'est quoi le changement de comportement relatif à la consommation d'eau potable.
Et dans une approche communautaire.
Dans une approche communautaire, bien sûr. Donc, il faut toujours informer la population, et surtout beaucoup plus à la sensibiliser à pouvoir utiliser ou soit consommer de l'eau potable filtrée ou soit préalablement traitée.
Pour atteindre les stades de l'élimination du ver de Guinée comme le souhaite l'OMS, il faut sensibiliser davantage la population qui vit en milieu rural sur l'existence de ces parasites ainsi que sur les moyens efficaces de se protéger contre la drachénculose, conclut Dr Samba Kanda Gédéon. Nous rappelons qu'il est le directeur du programme national d'éradication de la drachénculose.
Aujourd'hui, nous pouvons espérer avec le nouveau gouvernement que l'État congolais va mettre des fonds à la disposition de ce programme pour que nous cheminions vers l'éradication. Mais également, nous allons lancer un appel vers d'autres partenaires comme l'UNICEF qui accompagne toujours ce programme dans tous les pays qui ont eu à certifier. Pourquoi pas également à République démocratique du Congo. Il y a les ONG PAT qui supportent la communication dans les maladies tropicales négligées et les autres partenaires peuvent se joindre à nous. Pourquoi pas aussi l'implication de la société civile pour enfin parvenir à certifier l'éradication de cette maladie d'ici la fin de l'année dans notre pays pour que nous puissions quitter cette liste noire qui tire vers le bas le processus d'éradication mondiale de vers de Guinée.
C'est par ici que nous clôturons les magazines Maïcha Boura consacré à la drachénculose, appelée aussi le ver de Guinée. Nous avons abordé les aspects liés aux facteurs de risque, le dépistage et le traitement des patients atteints par ces parasites. Ce magazine de promotion des questions de santé et bien-être sur Radio Capi vous a été présenté par Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. La prise de son est signée Mimi Kindou. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de Maïcha Boura. Dans l'entretemps, portez-vous bien.